Soyez bienvenus, vous êtes sur International, sur les antennes de RFI TV5 Monde, émission réalisée avec notre confrère Le Monde. Il faut sauver l'Europe. Ce pourrait être une forme de mot d'ordre, mode de mobilisation, après le Brexit, la montée des populismes ou la défiance des Européens envers cette Union, désormais à 27. Sauver l'Europe, c'est aussi un livre, ce livre que publie, que nous propose Hubert Védrine. Merci d'être sur le plateau d'International. Vous avez été proche collaborateur de François Mitterrand de 80 à 95, puis ministre des Affaires étrangères de 97 à 2002. Vous êtes aujourd'hui consultant et vous enseignez à Sciences Po Paris. Nous allons commenter ce nouvel ordre mondial de l'Europe, mais aussi des États-Unis avec l'élection de Trump, les menaces du Turc Erdogan ou encore l'attitude de Poutine. Beaucoup de questions avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Alors Hubert Védrine, à quelques jours des 60 ans du traité de Rome, fondateur de cette Union européenne, on parle toujours de ces 6 décennies sans conflit comme étant l'apport majeur de cette Europe. Ça ne suffit plus, ce constat, Europe égale la paix, ça ne suffit plus à convaincre du bien fondé d'Europe ?
Non, la preuve, ça ne suffit plus, parce que si vous additionnez les vrais anti-européens, qu'il ne faut plus confondre avec les eurosceptiques, donc les anti-européens, genre extrême droite et extrême gauche. Après, c'est variable selon les pays. En Grande-Bretagne, ils ont gagné de justesse. Bon. Les vrais anti-européens, les simples sceptiques, ils ne sont pas contre, mais ils n'y croient plus vraiment. Ça n'a pas tourné comme ils le souhaitaient. Ceux qui sont déçus, on leur a promis l'Europe sociale ou des citoyens, ça se concrétise pas vraiment, ils sont déçus. Et puis, les allergiques à ce que Jean-Claude Juncker, lui-même, président de la Commission, a le courage d'appeler la réglementation à outrance, vous arrivez à une assez grosse majorité. Les pro-européens classiques... centre-gauche, centre-droit sont minoritaires à peu près partout. Quant aux européistes fédéralistes vrais, ils sont relativement influents dans les milieux économiques ou dans les médias ou les think tanks, mais pas dans l'opinion. Donc il y a une majorité contre, ce qui me paraît le premier des problèmes. Donc tous les slogans à l'ancienne, l'Europe c'est la paix, l'avenir, la jeunesse, ça fonctionne pas. De toute façon, c'est pas l'Europe qui avait fait la paix, je vous rappelle. Hein. C'est les Américains et les Soviétiques. L'Europe a profité intelligemment de la paix.
Vous dites que l'Europe n'est pas la mère de la paix, mais sa fille.
Et donc, en tout cas, mais ça c'est une petite parenthèse historique, en tout cas, c'est plus un argument suffisant depuis longtemps. Depuis longtemps. Je vous rappelle que le référendum pour Maastricht, que Mitterrand avait voulu pour le sanctuariser, en quelque sorte, était passé à 1% près.
Ah oui.
1% près. Après, on fait comme si de rien n'était. Et puis le rejet en 2005 par les Français, les Néerlandais, d'autres, s'il y a eu d'autres référendums. Donc il y a une longue période où on n'a, à mon avis, pas assez intégré le fait que les peuples étaient en train de décrocher et on n'a pas apporté des réponses satisfaisantes, sinon on n'en serait pas là.
Jean-Claude Juncker a dit lui-même que cette commission était celle, je cite, de la dernière chance. Donc c'est une chance qui a été ratée ?
On ne peut pas encore dire ça. Et puis il a été assez courageux, je trouve. Il est souvent critiqué de façon absolument injuste, à mon avis, parce qu'il a mis le doigt là-dessus. Les peuples ne veulent pas simplement avoir une meilleure croissance, et puis Erasmus pour tout le monde, c'est très sympathique, ça. Bon, c'est bien. Mais les peuples veulent garder un peu d'identité, de souveraineté, plus en sécurité. Ils ne veulent pas forcément que la machinerie européenne, Commission, Parlement, de Cour de justice, décide de tout et de rien à leur place, le côté intrusif. Il a dit qu'il n'a pas été tellement soutenu, il n'a pas été tellement suivi, en fait. Donc il a été plutôt bien, Juncker, par rapport à ça. Et s'il a dit « dernière chance », c'est parce qu'il voit bien que les Européens sont plus d'accord entre eux, en fait, sur quelle doit être la suite. Mais c'est pas tout à fait perdu. Il y a un rendez-vous à Rome dont on peut peut-être espérer.
Il donnera quelque chose. Sophie Malibaud.
On peut pointer, par exemple, qu'au moment du référendum sur le Brexit, les jeunes britanniques, les jeunes de Grande-Bretagne ont massivement voté contre la sortie de l'Europe. Et donc il y a quand même encore, l'Europe fait encore rêver quelque part.
Les jeunes urbains, oui.
Ils ont même défilé dans les rues au lendemain de...
Oui, mais le clivage urbain ou pas urbain est plus net encore que celui-là. En France, en 2005, les jeunes avaient voté plus contre que oui, par rapport à ça. De toute façon, l'Europe n'a jamais fait rêver. Elle n'a pas été... Il n'y a jamais eu de manifestation dans les rues pour demandant plus d'Europe, c'est jamais arrivé. Ce sont des élites qui ont fait ça de façon tout à fait démocratique, hein, transparente, avec soutien par des gouvernements démocratiques, ratifié par des parlements, le traité de Rome 1957. Bon, mais il n'y a jamais eu de mouvement de masse par rapport à ça, mais les peuples ont plutôt suivi quand même. Ils ont trouvé ça plutôt bien. Ils ont mélangé les acquis de la paix, qui était la fin de la guerre, plus l'alliance atlantique avec l'Europe, donc ils trouvaient ça sympathique. Et puis une longue période de croissance, tout ça se mélangeait.
Mais,
donc il ne suffit pas de réenchanter ou de faire re-rêver, surtout pas. Il faut reconvaincre.
Hubert Védrine, c'est quoi la solution ? Est-ce qu'il faut revenir à une Europe un peu minimale, arrêter un peu les choses, et puis que les gens s'aperçoivent qu'il y a des acquis quand même ?
Alors, il y a les solutions des anti-européens. Hein. c'est un échec historique. Bon, c'est pas ma position. Et je trouve ça sans intérêt. Ils n'ont aucun plan réel. Ils disent simplement qu'il faut sortir de l'euro ou de l'Union, on arrête tout. Bon. Après, vous avez la solution de ceux qui veulent l'intégration, quoi que votent les peuples, et qui se trompent, ils ne sont pas au courant. Nous, on va continuer. Il y a des référendums hostiles, on continue. Des votes hostiles, on continue. Bon, ça, c'est les européistes. C'est l'Union sans cesse plus étroite. Et c'est l'intégration sans fin, comme la vie du même nom. Donc, on continue. Bon. Moi, je suis ni dans l'un, ni dans l'autre. Je pense que si on veut sauver le projet, qui est un grand projet historique, dans l'intérêt du monde en plus, je crois, il faut remettre les peuples dans le coup. Pas les vrais anti-européens, on n'y arrivera pas. Mais tous les autres que j'ai cités, vous voyez, les sceptiques, allergiques, déçus. On peut y arriver à condition qu'on leur dise la construction européenne n'est pas une machine qui va cannibaliser ce qui vous reste d'identité ou de souveraineté. Donc vous restez vous-même, mais nous sommes ensemble parce qu'on est plus forts ensemble. Il y a un tour de... C'est pas évident. Donc pour moi, la solution, enfin, je propose ça, il y a d'autres idées que les miennes, mais voilà ma contribution, c'est de dire à un moment donné, c'est ce que j'appelle la pause, c'était mal compris, parce qu'il y a dit, oui, il veut tout arrêter. Je ne veux pas tout arrêter. Je veux un message pour dire aux gens, on vous écoute. Vous voulez garder donc identité sur une telle compagnie, c'est pas répugnant, c'est pas choquant, c'est normal, on va apporter une réponse raisonnable à ça. Et pour moi, juste après, il faudrait réunir une conférence des gouvernements responsables et déterminés et ambitieux, un peu sur le modèle de la conférence de Messine en 1955. Pas simplement pour dire ce qu'ils viennent de dire, il y a quelques-uns là, à quatre. On va faire de la plusieurs vitesses, ça, c'est comme ça depuis le début, les plusieurs vitesses. Mais pour dire, on va s'attaquer à la répartition des pouvoirs entre le niveau européen et le reste. C'est l'opération subsidiarité.
Vous voyez, qui fait quoi ? C'est ça l'idée ?
Alors, qui fait quoi ? Donc, l'Europe devrait, à mon avis, enfin, le niveau européen devrait faire beaucoup moins. La réglementation à outrance, ça existe. Alors, il y a une combinaison diabolique entre la bureaucratie de Bruxelles et les bureaucraties nationales qui s'en sont servies pour faire passer des choses, tout en protestant contre les résultats. C'est un jeu de menteurs, tout ça. Le résultat, c'est que le moindre détail absurde sur les... Vous connaissez très bien, il y a 50 histoires sur les bananes, sur les concombres, sur les étalages en plein air, sur les vis, sur les prises, sur les chaises d'eau, sur les... etc. Bon, etc., etc. On se calme là-dessus. On fait de l'harmonisation par objectif. Et on redonne au niveau européen deux ou trois grandes missions, mais qui n'est plus la surréglementation dans le détail. D'ailleurs, les vrais vieux fédéralistes historiques expliquent que Jean Monnet n'avait même pas, même Jean Monnet, fédéraliste, il n'a même pas en tête l'idée d'une commission qui était au-dessus, supranationale, pour surréglementer. Ce n'est pas l'idée d'origine. L'idée d'origine, c'était une commission restreinte, de haut niveau, très politique, alors, qui ne surréglementait le contraire de ce qu'on a. Donc, on retourne les choses et on redonne à l'Europe, mais on ne va pas le faire tout seul entre nous, c'est la conférence qui dirait ça, la conférence refondatrice. Deux, trois missions majeures pour après.
Lesquelles ?
Ce qui saute aux yeux, mais je ne veux pas répondre à la place de l'hypothétique conférence des pays volontaires.
Non, mais qu'est-ce qui vous paraît prioritaire aujourd'hui ?
La sécurité. Déjà Mitterrand en 92 avait été obligé de dire face à Séguin, une Europe forte vous protégera mieux. En étant 92. Et on est avant les mouvements migratoires de masse, on est avant les convulsions au sein de l'islam, on est avant le retournement sur la mondialisation, on est contre. Donc il faut montrer que l'Europe est une structure non pas fermée, pas protectionniste au sens débile à l'ancienne, mais protectrice. Donc il faut un Schengen refait qui marche bien. Un vrai système avec des vraies gardes-frontières. Et puis faut arrêter les batailles entre méthodes communautaires et nationales. Madame Merkel a fait un discours excellent il y a 7-8 ans là-dessus. Elle s'est fait engueuler par la Commission après, qui veut que des choses communautaires. En fait, il faut combiner gardes-frontières, gardes-côtes, et puis il faut distinguer absolument les demandeurs d'asile. Ça, on ne peut pas fixer des quotas, on ne connaît pas les quantités de drames des 10 prochaines années. Et les mouvements migratoires, qui auront le courage de co-gérer avec les pays de départ et de transit. Si on arrive à dire ça, je pense qu'il y a une partie de l'opinion en Europe qui se calmerait un peu et à qui on pourrait dire qu'il faut quand même être plus généreux en termes de réfugiés, puisque le reste est géré. Mais comme aujourd'hui, ils ont le sentiment que rien n'est géré, que c'est une passoire complète et qu'on les fait vivre dans une maison sans porte ni fenêtre et on les accable de notre mépris en faisant de la morale, les gens sont contre tout ça, vous voyez.
Mais pour moi, ça serait
un des sujets qui s'imposerait, mais il y a d'autres sujets.
On voit des réponses très différentes à propos justement de cette crise migratoire. Certains pays les ont accueillis à bras ouverts, notamment au début en Allemagne, et la Hongrie annonce qu'elle les met en prison.
Oui, mais c'était dans l'urgence, ça. Le système Schengen, il était pas mal pour...
Libre circulation.
Pour temps calme. Oui, libre circulation entre les pays fondateurs, ça s'est élargi petit à petit. Et on n'a jamais bien organisé la frontière extérieure, parce que dans l'ambiance que je dis un peu par esprit comme ça polémique, l'ambiance un peu bisounours là, des 30 dernières années, on allait faire la communauté internationale, l'Europe allait servir d'exemple, tout ça. Donc on ne s'est jamais dit, il faut une frontière extérieure gérable. Mmh. Je ne veux pas dire fermeture aux frontières. C'est-à-dire que simplement qu'on gère ce qui se passe. Bon, c'était fait pour un temps calme, pas trop de réfugiés, pas trop de migrants, on y arrive. Puis des gens qui n'ont pas un mode de vie trop différent des pays où ils arrivent. Si vous avez en masse l'inverse, eh ben les clauses dans Schengen, d'ailleurs c'est prévu. Hein. Dans Schengen, les gens disent, ben moi je rétablis les frontières parce que je suis sur le trajet, c'est pas possible. Il faut sortir de ça. Mais ça ne sert à rien d'insulter les pays qui le font, il faut trouver des solutions.
Hubert Védrine,
c'est pas impossible.
Est-ce que justement, sur ce type de chapitre, sécurité, c'est le moment de faire une pause? Est-ce que c'est pas justement sur ces chapitres-là qu'il faudrait accélérer
alors,
les choses?
Dans mon esprit, la pause, encore une fois, c'est pas une mise à l'arrêt. Le mot pause, je l'ai peut-être mal choisi d'ailleurs, c'est un message pour dire au peuple, vous croyez que c'est une espèce de rouleau compresseur que rien n'arrête, qui se fiche totalement des votes. Ben non, on va vous écouter. Je réagis un peu à une remarque que je cite du ministre allemand Schäuble, qui est très européen, qui dit que c'est quand même impossible de ne jamais tenir compte des peuples. Donc pour moi, je commence en disant, bon, on tient compte, on écoute, mais aussitôt, on fait la conférence. Mais je le ferai sur l'intégration. Pause, pas longtemps, quelques mois, pendant l'intégration, jusqu'à ce qu'on ait redéterminé qui fait quoi. Sur l'affaire Schengen, non, on ne peut pas faire de pause, je ne crois pas. Au contraire.
Il faut accélérer.
Au contraire, il faut aller vite. Les ministres de l'Intérieur ont bien travaillé ces deux dernières années dans la panique. Enfin, il y a eu la panique, ils ont bien travaillé. Et donc là, il faut aller assez vite à un système qui fonctionne.
Et de même, le système qui fonctionne vis-à-vis de... Pour ce qui est de l'arrivée des migrants, les points d'entrée, Grèce, Italie, est-ce qu'on peut rester en l'état?
Non, avec, il faut tout changer, tout ça. Bien sûr.
Hubert Védrine, ce mois-ci, le Royaume-Uni va très probablement activer l'article 50 qui lance la négociation sur le Brexit. 2 ans pour y arriver, etc. Est-ce que vous pensez que ça va, sans préjuger du résultat, à qui ça va profiter? Aux europhobes ou aux européistes? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que l'expérience du Brexit va prouver qu'en fait, sortir est un casse-tête et qu'on a tout à y perdre? Ou au contraire, ça va être le début des dominos et tout le monde va vouloir sortir?
J'en sais rien. Et vous non plus?
Non, mais ça se présente comment? Les Britanniques commencent à déchanter en découvrant que on ne peut pas avoir tout, c'est-à-dire un accord commercial avec un marché unique sans la libre circulation.
Si le Brexit tourne bien, c'est très menaçant pour ce qui reste d'union après. Même si aujourd'hui, il y a plein de peuples très mécontents, mais qui ne veulent quand même pas sortir.
Mm-hmm. Oui, parce que les Polonais, les Hongrois, ils veulent pas sortir.
Non plus, ils veulent rester.
Ils profitent du marché intérieur.
Ils protestent contre les idées des Allemands ou des Français, mais ils ne veulent pas sortir. Donc il n'y a pas de contagion de la sortie pour le moment. Mais si ça se passait très bien finalement, qu'ils retombent sur leurs pieds, tout ça, ils disent donc que c'est une menace, et à ce moment-là, l'Europe aurait sacrément intérêt à s'être réformée à temps. Avant.
Ça vous paraît possible d'avoir les avantages du marché unique sans...
Je ne sais pas comment tournera la négociation, parce que honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que sera la position des Britanniques dans un an et des Européens dans un an. Est-ce que les Britanniques dans un an diront « on sort quoi qu'il arrive » ou est-ce qu'une partie d'entre eux, peut-être majoritaire, commencera pas à dire...
Juncker dit lui-même qu'il espère que les Britanniques reviendront dans l'Union Européenne.
Alors moi, ça ne me paraît pas totalement exclu.
Ouais.
Qui disent à un moment donné, on a eu un mandat du référendum, Louis Allemand a négocié, en fait ça ne marche pas, donc on revient. Mais je ne crois pas qu'il puisse revenir dans une union absolument inchangée. C'est-à-dire si les européistes d'aujourd'hui, qui disent on continue quoi qu'il arrive, ils veulent simplement punir les méchants britanniques, si c'est que ça, il n'y a pas d'espace de retour. Si l'Europe dans un an, mais qu'on ne peut même pas prévoir, on ne connaît pas le résultat de l'élection en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, tout ça. Bon. Si dans un an, après tout, c'est idiot de se priver des Britanniques, il y a peut-être une marge de négociation, donc c'est pas simplement qu'ils reviennent, mais il y a une sorte de retrouvaille qui se fait avec une combinaison d'une Grande-Bretagne moins exigeante et d'une Europe plus pragmatique pour sauver le projet. Mais là,
est-ce qu'il faut revenir sur la libre circulation des travailleurs, qui est une des sources principales de la colère contre l'Europe en Europe occidentale, je parle en tout cas. C'est-à-dire de voir arriver des Polonais, des Roumains qui...
On pourrait introduire des atténuations, je pense. Des calendriers, des écluses. Un système qui fait que le choc serait moins fort quand on regarde le coût horaire d'un ouvrier bulgare ou d'un ouvrier allemand. Vous voyez bien, la différence est quand même tout à fait considérable. On aurait dû y penser au début, mais ça aussi, c'est l'époque de la mondialisation sans limite. N'oubliez pas que pendant 30 ans, quand même, des mondialisateurs, la mondialisation est plutôt un progrès, globalement, hein, surtout pour les Asiatiques. Enfin bon, il y a eu des mondialisateurs effrénés et des intégrationnistes en Europe effrénés. Il faut retrouver peut-être tout simplement un peu de bon sens par rapport à ça. Donc moi, je ne dis pas non à l'idée qu'on réorganise un peu ça. Évidemment, les pays de l'Est sont tout à fait pas contents. Mais Schröder avait essayé, d'ailleurs. Vous vous rappelez que quand il y avait eu l'adhésion, il avait obtenu qu'il y ait un temps de 7 ans pour l'Allemagne, avant que les clauses jouent pleinement. Peut-être qu'il a aussi fallait être plus patient, aller dans le sens de l'histoire, dire que quand l'écart des salaires, par exemple, ont été réduits de temps, à ce moment-là, la circulation sera complète. Et quand, bon, tout ce qu'on aurait dû faire avant, si on n'avait pas voulu forcer les événements, c'est peut-être à nouveau faisable maintenant. De toute façon, il faudra, pour sauver le projet, il faudra quand même... il faut des compromis.
Donc, par exemple, il faut revenir sur les délocalisations, parce que on se plaint beaucoup des délocalisations en Asie, en Turquie, au Maghreb, etc. Mais aujourd'hui, une grande part des délocalisations sont intra-européennes.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les usines françaises partent en Roumanie ou en Bulgarie, enfin ou en Slovaquie.
D'abord, les usines allemandes. Parce qu'il y a toute la politique économique allemande qui a retrouvé au fond son hinterland de toujours, dans toute l'Europe centrale. Bon, alors peut-être qu'en effet, il faudrait revenir à des... sortir du tout ou rien.
Quand
c'est vrai que si on dit ça, le groupe de Visegrád saute au plafond.
Mais... oui, mais bon, Hubert il ne peut pas avoir tout non plus.
Oui, Sophie, on échange librement des idées, donc on peut en
quand
mettre
aujourd'hui,
en avant.
Hubert Védrine, on entend parler d'une Europe à plusieurs vitesses. Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de céder à ce que les Britanniques voudraient, ce qu'ils voulaient, qui était une Europe à la carte?
Non, parce qu'il y a un socle. Il y a un socle commun qui n'est pas changé. Ce sont les traités, par exemple la politique agricole, vous voyez, des fonds structurels, des choses comme ça. L'euro, le marché unique. Bon, il s'agit de savoir ce qu'on fait en plus. Mais donc, on ne peut pas critiquer l'idée des plusieurs vitesses avec cet argument-là, parce qu'en plus, ça s'est toujours fait. On en a parlé, il y a Schengen, il y a l'euro, donc c'est plusieurs entités différentes. Qu'est-ce qu'on fait au-delà? S'il n'y a pas d'accord général pour aller au-delà, ce n'est pas choquant, moi ça ne me choque pas qu'on reparle de plusieurs vitesses, sauf que, à mon avis, ça ne répond pas du tout aux raisons pour lesquelles les peuples décrochent. C'est pas en leur disant « Ah, il y a l'Europe à plusieurs vitesses, ceux qui sont allergiques à la réglementation, ils vont pas changer d'avis. »
Mais c'est l'histoire de dire au peuple aussi, aux différentes nations, ils participent quand ils veulent, quand ils estiment que ça les concerne.
Oui, mais ça existe déjà, d'ailleurs. On l'a prévu dans le traité d'Amsterdam, que j'ai signé avec ce stylo, d'ailleurs. Les chiens d'Européens historiques.
Mais alors, Hubert,
on a prévu des coopérations renforcées, permettant à des pays de faire ensemble des projets que tout le monde ne veut pas suivre, pour pas contraindre les autres, mais pour pas empêcher ceux qui ont un projet sérieux d'avancer. Mais on a prévu beaucoup de pays, il faut que la Commission soit pas contre, on a prévu des tas de choses qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc ils remettent en avant, ils ont dans la réunion récente, là, à Versailles, l'idée de plusieurs vitesses, mais elle est déjà là. Moi ça me choque pas, au contraire, que ce soit fait de façon très très souple, sauf qu'encore une fois, ça ne répond pas aux raisons pour lesquelles les peuples ont décroché. Des gens qui devraient être favorables et qui sont maintenant hostiles.
Hubert Védrine, ça paraît très compliqué de quitter l'Union européenne pour un pays qui n'est ni dans l'euro ni dans Schengen. Je parle du Royaume-Uni.
A fortiori.
Alors, est-ce qu'on peut quitter l'euro, en fait? Il y a des candidats en France qui soutiennent cette idée. Plus compliqué.
Si vous parlez de l'extrême droite, ils veulent quitter l'euro, ils veulent quitter l'Europe, ils veulent tout quitter, et ils n'ont pas plus de plans pour après sérieux que les gens du Brexit. Par contre, on pourrait imaginer, par exemple, dans l'affaire de la Grèce, je vais peut-être choquer les amis grecs qui écouteront, mais je pense que ça serait moins cruel pour la Grèce si on avait décidé qu'ils ne sont plus momentanément dans l'euro, mais ils restent naturellement dans l'Union, avec un programme particulier pour les accompagner et des clauses de rendez-vous pour...
Et une autre monnaie, bien.
Entre-temps, oui, bien sûr. Et donc, je ne suis pas un dogmatique de l'euro. Je pense que il vaut mieux la monnaie unique que la zone marque dans laquelle on était avant, sans pouvoir rien faire. C'est plutôt mieux, historiquement. Mais je ne suis pas un dogmatique là-dessus. Mais ça, c'est une réponse momentanée à un cas particulier. L'idée pour la France de sortir de tout ça, c'est évidemment totalement irresponsable. On le voit bien, d'ailleurs, quand on pose des questions sur « mais qu'est-ce que vous feriez après, comment ça se passerait, etc. » C'est pas du tout construit. Par contre, il y a une bataille à monnaie au sein de l'Union, pour sauver le système, pour remettre les peuples, il y a une bataille menée dans l'euro. Pas pour un abandonnement de la souveraineté, et puis c'est pas en mettant le ministre des Finances de la zone euro, une mesure technocratique qu'on va enthousiasmer les gens, mais
pour
réorienter la politique économique dans la zone euro.
Je vous interromps,
plutôt
le temps de faire une pause sur l'antenne de TV5 Monde. Point d'actualité sur RFI, on se retrouve pour parler d'Europe et du nouvel ordre mondial immédiatement dans 2 minutes.
Et merci de rester avec nous sur RFI. Il est 11h30 en temps universel.
International sur TV5 Monde, RFI, émission réalisée avec le quotidien Le Monde. Nous parlons de l'Europe et même c'est ambitieux de sauver l'Europe avec notre invité, ancien ministre des Affaires étrangères français, Hubert Védrine. Je voudrais vous proposer une image. Elle a 24 heures. Elle a été prise donc à Bruxelles, au Conseil européen. Et il y avait la question de la reconduction de Donald Tusk. On voit ici donc cette image. Il a été réélu par les Européens, mais contre l'avis des Polonais, donc de son propre gouvernement, qui aurait préféré un candidat plus conservateur. Là aussi, il y a des incohérences à l'intérieur d'un même pays. Et au fond, on ne s'intéresse même plus à ce Conseil ni aux différentes entités.
Oui, mais il y a toujours des dissensions au sein de chaque pays. De toute façon, l'Europe, ce n'est pas un pays, c'est 27, 28, et si on élargissait, c'est 35 pays différents avec leur politique intérieure. Mais dans l'affaire, c'est la Pologne qui s'est ridiculisée. Et Tusk a été reconduit largement, du coup, même par ceux qui n'étaient pas totalement convaincus par le nazi de le reconduire.
Ça a été effectivement une humiliation et lui, il est reconduit.
Mais j'ai parlé de mon petit livre avec lui.
Et alors ?
Bah rien, je ne peux pas vous dire, mais il était intéressé.
Bon, bah écoutez, on le remonte. Autre élément d'actualité...
Il y a un point d'exclamation qui est important.
C'est
pas un point d'interrogation.
Ni absence de ponctuation. Voilà, nous remonterons sauver l'Europe avec ce point d'exclamation. À propos d'Europe, première visite de la chancelière cette semaine, Angela Merkel, aux États-Unis à la rencontre de Donald Trump. C'est un événement important. On doit négocier avec ce président américain peu prévisible.
Attendez, la question se pose même pas.
Bon, je retire alors.
On va négocier avec qui? Non, ça, c'est quand même, j'espère, évident que. La négociation, la diplomatie, c'est fait pour parler à tout le monde, y compris des gens qu'on n'aime pas, y compris dans certains cas des gens beaucoup plus menaçants que Trump. Ouais. C'est pas uniquement pour se rassembler entre copains. Bon. Donc bien sûr, est-ce que c'est que Mme Merkel? Ça c'est regrettable, mais c'est la réalité des choses en Europe ces dernières années. D'ailleurs Obama était venu la voir quand il avait quitté son mandat. Bon, ça c'est un autre sujet, pourquoi on a décroché, pourquoi on n'est plus au même niveau, comment on peut revenir au même niveau, ben, c'est un autre chapitre.
Ça aurait eu plus de sens une visite à deux ou trois dirigeants européens.
Oui, sans doute, mais la réalité européenne est
ça. Bon, je pense que Trump n'était pas pour non plus.
Et sans doute pas, mais la réaction est la même du côté du Turc que du côté de Poutine. Bon, ça c'est notre problème, comment se débrouiller pour dans cette situation, et comment surmonter ça, c'est un autre chapitre. Mmh. Mais par rapport à Trump, moi je pense qu'il est urgent de dépasser le stade de sidération, qui a saisi non seulement tous ceux qui avaient voté Hillary Clinton aux États-Unis et tous les milieux entre guillemets progressistes dans le monde entier, mais aussi toute l'Europe, qui est épouvantée par cette élection, qui l'a jugée peut-être possible, mais en tout cas impensable, qui sont bouleversés par chacune de ces apparitions.
Et vous trouvez que sa politique étrangère est lisible ?
C'est pas le sujet. Le problème, c'est nous. C'est que donc on a été sidérés, stupéfaits, choqués, épouvantés. Alors on dit, mais les grands électeurs vont pas le confirmer, puis il y aura l'impeachment, et puis il va se planter. Bon. Alors au lieu de faire tout ça, il faut tranquillement dire, voilà les éléments fondamentaux pour nous. Et sans doute que Mme Merkel le fera, parce qu'elle est quand même un leader responsable et capable. Donc il faudrait dire, vous voulez arrêter l'accord climat? Ben nous, non. Et le monde entier va continuer. Même avec des États comme la Californie ou des entreprises américaines. Vous voulez torpiller l'accord Iran? Non. On va l'appliquer. Et si vous utilisez les menaces américaines classiques de sanctions unilatérales avec cette espèce d'unilatéralisme judiciaire, non, on n'acceptera pas. Et on est prêt à aller travailler en Iran avec d'autres monnaies que le dollar, vous voyez. Vous voulez un rapport différent avec Poutine? Alors là, ça devient plus compliqué puisque les Européens ne sont pas d'accord entre eux. Nous avons notre propre conception des rapports plus réalistes avec Poutine. Mais il faudrait admettre qu'on a échoué en Syrie et que l'Ukraine est gelée. Bon. En tout cas, vous voyez ce que j'ai dit. Au lieu de se demander, mais mon Dieu, qu'est-ce que va faire Trump?
Mais Trump peut écouter si on lui dit non?
J'en sais rien, on verra. Ouais. On verra, mais il faut se demander ce qu'on doit faire nous. On ne peut pas s'épuiser sans arrêt à des interrogations sur Trump auxquelles personne n'est capable de répondre, même pas ses collaborateurs proches.
Ah oui. Et ça peut changer sur l'Amérique dans le monde.
Qu'on doit faire, nous. Ah oui, ça porte une atteinte à l'image américaine, mais bon.
L'intervention militaire, par exemple.
Laquelle
il est moins soucieux de se projeter sur les attaques extérieures. Il demande aux Européens d'augmenter leur propre budget.
Oui, mais ça, ils ont tous demandé ça depuis très longtemps. Les Américains, ils payent 70% des dépenses de l'OTAN. Ça fait très longtemps, même sous Obama, qui disent, écoutez, il faut payer plus, les gars. Bon, ça, c'est pas... L'originalité de Trump, en dehors de sa vulgarité phénoménale, c'est quelque chose qui était déjà présent chez Obama, qui est que les États-Unis sont plus chargés de faire la morale dans le monde entier. Ils s'estiment plus chargés d'aller démocratiser le monde. Autrefois, l'Occident évangélisait le monde entier. Depuis 30 ans, on a le droit de l'homiser le monde entier. Et Obama avait commencé à dire c'est pas forcément notre mission. C'était la mission Wilson, il y a un siècle, le président Wilson, après la Première Guerre. Le fait que Obama, de façon très sophistiquée et intelligente, et Trump, avec sa brutalité extrême, ait dit ça, c'est un signe que les États-Unis, en effet, ne sont plus exactement porteurs de cette approche-là. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient isolationnistes. Parce que, vous voyez, il veut en même temps augmenter le budget de la défense, qui est déjà colossal. Bon. Donc, ils ne vont pas être absents, mais pas sous la forme missionnaire.
Mais Hubert
Vidal, c'est ça, il faut se préparer à ça dans nos têtes.
Vis-à-vis des Européens, est-ce que vous estimez que l'administration américaine, avec Trump à sa tête, peut avoir un pouvoir de nuisance actuellement, en enfonçant, puisqu'il a tellement soutenu le Brexit
Il a eu lieu avant lui, le Brexit.
Mais il était déjà actif.
Avec Farage, etc.
Oui, je sais bien, mais ce que disait Obama dans l'autre sens n'a eu aucun effet. Obama a été dire, le Brexit, c'est pas bien, l'Europe, c'est bien, c'est sympathique, tout ça, ça n'a eu aucun effet. Il a été dire que Mme Merkel, elle défend des valeurs, qu'est-ce qu'il a dit, universelles, aucun effet.
Bah, ça aurait pu être pire.
Non, mais ça aurait pu être pire, mais je veux dire, il ne faut pas exagérer non plus le pouvoir de nuisance de Trump. Il est nuisant si nous-mêmes, nous ne savons plus qui nous sommes, ni ce que nous voulons. Et si on n'est même pas capable de se mettre d'accord sur deux ou trois éléments fondamentaux que j'ai cités, auxquels je pourrais ajouter d'ailleurs notre conception de la poursuite de la mondialisation et des accords commerciaux, à condition d'introduire quand même plus d'éléments de normes sanitaires, environnementales et compagnie. Bon. Donc il faut qu'on prenne l'initiative. La seule, vous voyez, il y a le côté spéculation sur Trump, ou angoisse sur Trump, et qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se concentrer là-dessus. Il sera obligé d'en tenir compte d'une façon ou d'une autre.
Une des volontés de Trump, c'est de rouvrir les accords commerciaux pour les renégocier à son profit. Est-ce que
vous pensez que
c'est quelque chose de possible, légalement? Est-ce qu'il faut qu'on rentre là-dedans parce que l'Europe peut avoir aussi des choses à négocier?
Ah ben ça, il le fera. Hein. Je ne sais pas comment on peut l'en empêcher. Il y a une sorte d'idéologie OMC qui est un peu morte quand même si ça reste un cas très utile et que l'organe de règlement des différends est très 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 important. Alors là, il faut essayer de se battre pour que cet organe garde sa légitimité, qu'il puisse arbitrer, parce que sinon on n'a plus rien, c'est un peu la jungle. Mais l'Europe est obligée, pour défendre sa conception de la poursuite de la mondialisation, il y aura un peu de démondialisation, au sens que ça va freiner un peu, et que pour des raisons d'insertion des coûts écologiques en termes de transport et autres, ça va régionaliser un peu. Donc, ce n'est pas tout à fait les 30 dernières années passées. 30 dernières années. Mais nous, on a intérêt à avoir notre conception. Regardez le blocage par les Wallons, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre sur le modeste accord Canada-Europe. Plus personne n'était pour l'accord États-Unis-Europe. Vous voyez ? Qui n'était pas idiot, parce que quand Obama disait il vaut mieux des normes euro-américaines que des normes chinoises, c'est intelligent au début.
Enfin, ça passait plus. La commission de Bruxelles n'a pas renoncé.
Oui, mais ça, c'est les hamsters dans la roue. Hein. Ils ne peuvent pas retourner les opinions là-dessus.
Vous faites des amis dans cette émission.
Je parle comme si on parlait normalement entre nous.
Naturellement. Je voudrais vous proposer une autre image, celle d'une crise diplomatique importante. Le président Erdogan qui s'en prend à deux pays, à l'Allemagne et aux Pays-Bas, avec son sens habituel de la nuance, qualifiant le fait d'avoir refusé la venue donc de deux ministres sur leur territoire, il les qualifie de nazis et de fascistes. Il faut avoir peur d'Erdogan ?
Si on est turc, j'en doute, mais pour le reste, là aussi, il ne faut pas forcément exagérer son pouvoir de nuisance. Il est extrêmement provocant. C'est inacceptable ce qu'il a dit, mais enfin, non, moi, j'ai vécu 68, on défilait, enfin pas moi, mais on disait CRS égale SS. On appelait, c'est quand même monstrueux.
Non. Oui, mais vous n'étiez pas président d'un pays.
Non. Je ne dis pas ça pour édulcorer ce qu'il a dit. Je pense que là aussi, il y a une évolution turque qui est vraiment, alors pour le coup, préoccupante, pour les Turcs, pour les voisins. Ils ont échoué dans le projet de refaire une espèce d'influence ottomane, parce qu'aucun pays arabe n'a envie de se retrouver sous l'influence turque. Il y a évidemment une fuite en avant très personnelle, très très dure, un mélange de démocratie formelle et puis de systèmes de plus en plus autoritaires, despotiques. Donc la question, c'est la même. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Voyez. Alors, dans l'idéal, il faudrait qu'on soit suffisamment fort en Europe pour ne pas prêter, donner de prise au chantage turc. Il faudrait qu'on ait réussi à faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Hubert Vedrine, à partir du moment où les Turcs et les Russes retrouvent un agenda commun?
Les Occidentaux n'ont plus le monopole de la puissance dans le monde. Ça fait 15-20 ans. Quand ils ont cru avoir gagné, c'était l'inverse. Bon.
Est-ce qu'ils n'en sont pas totalement exclus, là?
Alors, on est exclus en Syrie, parce qu'on s'est planté en Syrie, en partant d'ailleurs de principes absolument honorables. Enfin, on s'est planté. on n'est pas totalement dépourvu de levier, de cartes. Après, ça dépend si vous parlez France ou Europe ou États-Unis, etc. Bon, on ne va pas complètement sortir du jeu, mais enfin, on n'est plus les maîtres du jeu. D'ailleurs, au Moyen-Orient, personne n'est complètement maître du jeu. Donc, il faut trier dans tout ça. Notre intérêt, d'abord, prioritaire, c'est dans l'affaire de la gestion des réfugiés. Il faudrait être suffisamment fort. Il faudrait faire ce dont on parlait dans la première partie de l'émission, c'est-à-dire réfugiés et migrants, et pour dire à Erdogan, vous faites ce que vous voulez. Vous gardez les réfugiés, tant mieux, très bien, on est d'ailleurs prêts à vous aider, ils viennent en Europe, on va gérer la situation. Il faudrait qu'on ne soit plus terrorisé par ça. C'est ça son levier. Après, à mon avis, il faudrait atteindre le jour où on serait assez fort pour dire on avait envisagé que la Turquie entre dans l'Europe, en fait, excusez-nous, mais en fait, c'est pas la bonne voie, c'est pas réalisable. En plus, on n'aurait jamais pu faire ratifier le traité d'adhésion, même avant Erdogan, hein, même dans des conditions plus normales. Reconnaissons que c'est une fausse piste, mais nous, on est prêts à ce qu'il y ait un très grand accord de partenariat stratégique avec la Turquie le jour où vous l'accepterez. Si on était capable de faire ça, on se sentirait déjà mieux, il serait furieux. Mais on pourrait négocier sur des bases plus saines.
Mais quelle est votre analyse? Qu'est-ce qui empêche de faire ça actuellement?
Ben nous, la division, la peur. Le fait que les Européens seront incapables de se comporter en puissance. Que le projet européen n'a jamais été, quoi que racontent les Français, un projet d'Europe-puissance. Si on remonte au fondateur, c'était l'annexe économique du système de l'Alliance, hein, pour eux, la fameuse Europe qui a fait la paix. Et donc, faire émerger l'idée que l'Europe doit devenir une puissance, sinon elle est impuissante et donc elle est dépendante de l'ensemble des autres, y compris Erdogan, Poutine, les marchés, je ne sais qui, il est évident qu'il faut, il faut convaincre. Les peuples européens, ils sont toujours dans leur bulle, ils croient qu'ils peuvent s'en dispenser de ça. Mais l'affaire turque nous montre que non. Voilà, donc c'est plutôt, je renvoie toujours vers nous, parce que sur tous ces défis, au lieu de trembler dans le vide, il faudrait qu'on se fortifie nous-mêmes.
Alors, vous dites, on s'est planté en Syrie, plus de 300 000 morts, une situation toujours illisible. Vous avez dirigé, je le rappelais...
C'est pas de notre faute, les 300 000 morts, on s'est planté dans notre tentative d'agir.
C'est le constat que l'on fait sur le bilan. Ouais. Vous avez dirigé la diplomatie française. Vous dites, on n'est pas des bisounours, on parle avec tout le monde. Même avec le régime de Bachar al-Assad, avec Bachar.
Il
ne
faut pas parler avec tout le monde par manie ou par faiblesse ou par. On parle avec tout le monde si c'est nécessaire.
Et ce serait nécessaire de parler avec Bachar.
Il faudra rappeler quoi, mille fois que Roosevelt s'est allié avec Staline. Il avait tué plus de gens qu'Hitler quand il s'est allié avec lui. Et Churchill aussi, même Churchill était plus méfiant. Bon, donc il ne s'agit pas de le faire parce qu'on parle à n'importe qui. C'est d'ailleurs à peu près inutile d'ailleurs de parler avec Assad, à mon avis, même en termes très réalistes. On a besoin de parler avec les Russes, on aurait dû le faire d'ailleurs dès l'origine de la guerre civile en Syrie. Et il faut parler aux Iraniens. C'est d'ailleurs...
Barvedrine, désolé de vous contredire, mais on parle avec les Russes, on parle avec les Iraniens, c'est juste qu'ils en font qu'à leur tête.
Oui, c'est bien, mais bon, ils ne sont pas les seuls. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Puisque la question qui m'était posée, c'est est-ce qu'on parle avec Donc je répondais sur oui, il faut être prêt à parler. Après, est-ce que ça règle les problèmes par enchantement? Bien sûr que non, vous avez raison. Il faut parler avec en étant un peu dissuasif. Il y a une question de rapport de force. Il ne faut pas s'interdire de parler. Sinon, on peut supprimer la diplomatie. On va parler qu'avec les Belges, au bout du compte.
Bon. Quel est le moment?
Donc, il faut réintervenir dans le jeu. Et nous aurions intérêt, nous, Français, d'ailleurs, à avoir une capacité à parler aux Iraniens, comme on le fait aux Saoudiens et aux autres. Parler, discuter, aller au-delà, avoir des projets. Ça, c'est sur la gestion sunnite-chiite. Dans l'affaire de Syrie, il faudrait... C'est compliqué, on reparle de loin. Hein. Convaincre Poutine, qui va être préoccupé par l'influence des Iraniens, et qui va lui-même s'embourber, même si ça ne nous remet pas dans le jeu, automatiquement. Le convaincre qu'il aura intérêt à parler avec nous de comment pourrait fonctionner la Syrie de demain. Qu'on redevienne la France, laboratoire diplomatique, source d'ingénierie politique, c'est des choses qu'on sait faire aussi, sur l'avenir de ces pays. Là, on peut peut-être rentrer. Mais il faut qu'on ne soit pas trop en désaccord avec les autres Européens, que Trump ne soit pas l'éléphant dans le jeu de quilles dans l'affaire. Bon, il y a des conditions à remplir.
À partir de quel moment vous estimez qu'elle a été le moment charnière, peut-être, où on s'est planté, comme vous dites,
en Syrie? Je pense que dès le début, on n'a pas choisi entre deux options beaucoup plus nettes. La première, c'était de dire c'est une guerre civile atroce. Mais on n'y peut rien, on n'a pas les leviers, on n'a pas la légitimité, etc. Donc on fait de l'humanitaire à très grande échelle, en aidant les Turcs, la Jordanie, le Liban et ceux qui viennent en Europe. C'est une option. Ou alors, comme ça, on en a donné l'impression, on va intervenir dans la guerre civile parce qu'on veut vraiment aider les démocrates à arriver au pouvoir, ce à quoi Obama n'a jamais cru, même s'il s'était laissé un peu entraîner à dire qu'il y a une ligne rouge. Bon. Et l'autre option, c'est supposer un engagement absolument massif et durable, militaire.
militaire. Mais à la sortie de l'Irak et de l'Afghanistan, c'était
Il avait été élu pour faire l'inverse, Obama. Et nous, on s'est beaucoup engagé là, encore une fois. C'est vrai que c'est un régime répugnant et que la guerre était atroce. Bon, on peut comprendre moralement, humainement, mais on n'a pas trouvé le levier. On a un peu joué des deux, en fait, sans aller tout à fait trop loin, parce qu'on voyait bien que si on donnait des armes, mais nos amis n'allaient pas pouvoir les garder, c'est les islamistes. Hein, bon. Vous voyez, on n'a pas choisi clairement. Il y a une réflexion à mener, et comme on est entendu un peu partout dans le monde, c'est important.
Partout dans le monde.
Il y a une réflexion à mener sur le bilan des interventions occidentales depuis 25 ans. Elles ne sont pas toutes mauvaises, hein. Mais quelles étaient légitimes ou pas, justifiées ou pas, qui ont marché ou pas, pour savoir ce qu'on va faire à l'avenir. On ne peut pas continuer comme ça.
Par exemple, vous parliez des interventions françaises dans le monde, enfin des interventions occidentales, mais on va parler d'une intervention française, c'est celle au Mali. Est-ce que il semble quand même que c'est en train de tourner au bourbier, c'est-à-dire on reste, les accords sont pas appliqués, la violence remonte, on est obligé d'augmenter les effectifs, etc., etc. Est-ce que vous avez peur d'une sorte d'engrenage, d'enlisement ?
Sur le déclenchement de l'opération, c'est inattaquable.
Ah oui, non,
inattaquable. Menace réelle. On aurait eu l'État islamique, non pas en Irak, mais là. Bon. Inattaquable. Courage de Hollande, qui a décidé très vite. Un système de décision qu'on n'a pas remis en cause, heureusement, depuis le général de Gaulle. Heureusement, on n'est pas encore dans la 6e République. Donc, décision immédiate. Une armée française extraordinaire d'efficacité. Les Américains admirent énormément l'armée française pour sa capacité à intervenir, à combattre sans dégâts collatéraux. Enfin, c'est compliqué, la guerre. Bon. Etc. Donc, ça ne fait pas disparaître. Donc, ça a été efficace et l'ensemble des Maliens et des pays de la région, du Sahel, sont reconnaissants à la France. Ça n'a rien à voir avec les interventions occidentales à l'ancienne. Après, que ça fasse disparaître comme par miracle, la question qui existe depuis l'existence du Mali, c'est-à-dire que les Touaregs, les Arabes du Nord-Est ne veulent pas être gouvernés par les gens de Bamako, ça n'a pas fait disparaître. Bon. Est-ce que ça veut dire pourtant que c'est un échec ? Non, parce que ça a répondu à la première menace. Est-ce que ça justifierait qu'on s'en aille demain matin ? Non. En tout cas, l'ensemble des gouvernements de la zone ne le souhaitent pas. Même s'il y a eu beaucoup d'efforts d'amélioration de leurs armées, de la coopération entre eux, et Jean-Yves Le Drian a joué un rôle tout à fait extraordinaire dans tout le Sahel pour forcer ça. Ils ne sont pas en mesure d'assumer tout à fait seuls, pour le moment. Et bon, donc non, ce n'est pas un échec. Simplement, les problèmes qui sont devant nous devront être réglés, si possible, pas par la France toute seule. Plus d'Africains, plus d'Européens, peut-être, sait-on jamais.
Hubert Védrine, on va parler un peu de la France. Nous sommes à un peu plus d'un mois d'une élection présidentielle. Il y a un mot que l'on prête à François Mitterrand, avec qui vous avez beaucoup travaillé, que vous connaissez bien. Il aurait dit « Je suis le dernier des grands présidents ». Est-ce que cette phrase a réellement été prononcée ? Et est-ce que, compte tenu de ce qui se passe actuellement, des candidats en lice, il avait été assez visionnaire ? Il aurait été visionnaire ?
Il l'a dit plusieurs fois, mais il ne faut pas prendre ça comme signe de mégalomanie, vous voyez, dans la phase ultime de sa présidence. C'était une description des compétences des présidents, des pouvoirs des présidents. D'ailleurs, il ne disait jamais ça sans suite. Donc, idée mondialisation, le rôle des marchés, l'Europe, on exerce la souveraineté en commun, ceci, cela, c'est ça.
D'accord.
Dernier président dans la plénitude, et d'ailleurs, c'est le dernier président d'avant le quinquennat. Vous voyez ? Et d'ailleurs, il est arrivé à Jacques Chirac de me dire, c'est notre dernier grand président. Après, Jacques Chirac, président. Je lui dis, mais non, vous dites ça pour me faire plaisir. Alors, c'est trop gentil. Mais non, tout le monde pense ça. Bon, donc il y a une question de contexte, une question d'institution, et ce n'est pas une comparaison qui pourrait être un peu choquante sur la valeur des uns et des autres. C'est autre chose.
Alors, il se pourrait que dans un mois, après le premier tour de l'élection présidentielle, les deux grands partis de gouvernement qui dominent la vie politique française depuis des décennies ne soient pas qualifiés au deuxième tour. C'est une ère politique nouvelle, ça.
Ah oui, c'est un vrai changement. Moi, je m'en afflige parce que je pense que la Ve République a beaucoup apporté à la France. Rappelez-vous la situation à la fin de la Quatrième, même si la Quatrième a beaucoup modernisé. Il faut d'ailleurs se rappeler que les leaders de la Quatrième, qui eux-mêmes avaient réfléchi sur leur impuissance, beaucoup d'entre eux, quand même, avaient soutenu la réforme constitutionnelle du général de Gaulle et de Michel Debré. Ils ont demandé le 49-3, par exemple. Des gens comme Guy Mollet, Pinet, etc. Ils ont
dit on va pouvoir passer en force au Parlement.
Passer en force, pouvoir passer quand même.
Sans le vote.
Gouverner
sans le vote de
quand même au bout du compte si ça ne marche pas du tout. Vous voyez ? Donc ils étaient assez conscients des limites de l'essence de la quatrième. Et aujourd'hui, nous voyons bien que la cinquième est là, les institutions, l'élection du suffrage universel qui est de 62, pas de 58. Mais ça ne suffit pas pour faire la cinquième. Il y a une question de personnel politique, mais surtout une question de parti. même si c'était contre les partis, en théorie c'était contre la toute-puissance des partis, mais il faut des partis capables d'alterner au gouvernement, ce qui était le cas pendant très 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 longtemps, et on voit bien que ça s'effrite, puisque ce que vous avez dit est possible.
Justement.
Qu'il n'y ait aucun grand parti de gouvernement.
Ni la droite, ni la gauche
au second tour. Hubert Moi, Fédérine, je trouve ça désolant, que... parce que je pense que la 6e serait, 6e République serait une sorte de 4e, peut-être en pire. Et ce qu'on risque, c'est la combinaison de la 5e et d'une sorte de 4e à l'italienne. Mm-hmm. Vous voyez
et Avec ça, la stabilité en prime.
Et c'est pas. Oui, alors pas tous les matins, mais bon. Avec des coalitions qui changent selon les sujets, etc. Et ça, c'est pas un élément de force. Ça n'aidera pas la France à se faire réentendre en Europe.
Est-ce que c'est une bonne chose, Hubert Védrine, que le Front National ne soit plus le seul parti, ni droite ni gauche ?
Je sais pas, c'est un fait. Je sais pas.
Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose ?
On va pas dire si c'est bon ou mauvais.
Pour la scène politique française, qui est une autre force qui émerge dans ce...
C'est aux électeurs de trancher, tout ça.
Oui, enfin, le Front National est d'extrême droite, mais...
Oui, oui.
Non, c'est différent.
C'est deux choses différentes.
Oui, mais on n'est pas obligé.
Moi, par exemple, comme je suis assez réformateur, je pense qu'il faut qu'on fasse les réformes qu'on fait tous les pays très développés, bon, etc. J'avais écrit un petit bouquin qui s'appelait La France au diffus. Je préconisais une alliance momentanée pour faire passer les réformes clés. Parce que la gauche n'y arrive pas, la droite non plus. Bon, donc je ne suis pas choqué par cette
démarche
qui est bloquée. Mais je crois que la raison pour laquelle 25% de gens votent Front National, au moins, 35% se sentent en sympathie avec leurs idées, c'est pas la même chose. Il faut s'interroger pourquoi. Mmh. Fabius avait dit très intelligemment, il y a très très longtemps, ces gens-là posent de vraies questions, mais le Front National apporte de mauvaises réponses. On n'a jamais été au bout de ce raisonnement, et on a laissé prospérer tout ça. Et comme le Front National a toujours été condamné sur un ton dégoûté par l'ensemble des élites que ces gens-là détestent, on a alimenté la machine à... Il faut sortir de ce piège.
Hubert Védrine, je reviens sur votre idée que c'est un peu la fin de la... On arrive au bout de la 5e et de ses institutions. Est-ce que c'est pas une chance qu'on se remette à faire en France des coalitions, donc des compromis ?
Comme en Allemagne.
Les Allemands y arrivent. La 5e, ça a été quand même le règne des godillots. C'est-à-dire les partis qui, yeux fermés, appliquent le programme de gouvernement du président.
À droite,
et, voilà. Est-ce que là, il ne faudrait pas qu'on arrive un peu à des coalitions, ce dont on a perdu l'habitude depuis très longtemps.
Bien sûr. Est-ce que c'est souhaitable ? Oui, je rappelais mon petit bouquin précisément pour dire ça. Je ne suis pas hostile, moi, c'est des, pas l'union à la coalition à l'allemande. On n'y arrivera pas à négocier 3 mois dans le détail ce qu'on veut faire sur chaque sujet.
Pourquoi Allemands. Parce qu'on est français, qu'on est belliqueux.
Ça ne vous a pas échappé que, même au bout de 50 ans de religion d'État sur l'amitié franco-allemande, les Allemands sont Allemands, les Français sont Français. Bon, il y a des permanences qu'une partie des élites trouve stupéfiantes, mais c'est comme ça. Bon, donc on ne peut pas l'appliquer. Par contre, des coalitions, pourquoi pas, intelligentes sur des projets précis, moi, ça ne me choque pas du tout. Alors, prenons votre interprétation, parce qu'elle est sympathique, c'est la plus positive de ce qui se passe. On a gardé le cadre de la 5e. Et à l'intérieur, on réintroduit une souplesse qui permettrait en effet de gouverner mieux.
Pourquoi en dehors des partis politiques ?
Non, pas en dehors. En les associant dans des choses combinées, parce que sur l'éducation, on ne trouvera pas la même combinaison que sur qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe, etc. Mais, bon, c'est séduisant que Christophe Aya ait raison, on verra. C'est une hypothèse.
Alors, au terme de cette émission, Hubert Védrine, sauver l'Europe, point d'exclamation, je le reprécise, c'est tout à la fois un souhait, une possibilité, une prophétie.
Là, c'est une proposition qui s'inscrit...
Mais elle sera sauvée, cette Europe.
...entre ceux qui veulent tout casser et ceux qui veulent continuer sans tenir compte des peuples. Donc j'essaie à l'intérieur du camp des pro-européens dont je fais partie, j'essaie de trouver une voie qui précisément...
Et quand saura-t-on si elle est sauvée, l'Europe ?
Vous le saurez en 2-3 étapes. Alors d'abord, il y a le rendez-vous de Rome. Bon, il ne faut pas trop attendre non
plus. Les 60 ans du traité de Rome.
Après, il y a le résultat des élections françaises, Pays-Bas entre-temps, puis allemandes. Et donc, ça se joue, je dirais, à partir de la fin de l'année, fin 2017-2018.
Merci, Hubert Védrine, d'être venu sur le plateau d'International, émission de TV5 Monde, de RFI, réalisée avec le quotidien Le Monde. Merci pour ce regard sur le nouvel ordre mondial. Excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5, excellente lecture du Monde. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un autre invité. Nous parlerons notamment de la situation en Turquie.
RFI, la radio du Monde. I paid my dues. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime.
and bad mistakes. I've made a few.
RFI, les voix du monde.